Prions, s'il vous plaît. Prions, merci. Notre Père, merci de mettre devant nous ta parole encore, qui est une lumière sur notre sentier. C'est aussi une occasion, encore une fois, de nous humilier, pour te demander de nous enseigner. Parle, ton serviteur écoute. Nous avons besoin d'être instruits. Nous avons besoin de nourrir notre âme de cette manne spirituelle tous les jours, afin de grandir, d'être fortifié dans l'homme intérieur et de t'exalter dans nos vies pour mieux te servir. Merci Seigneur de me cacher derrière la croix ce matin, que ta parole soit reconnue comme vraie, ta bénédiction sur ce message, parce que Seigneur, tu veux nous bénir dans ton grand amour. Alors Père, aide-nous à mettre à tes pieds ce qui convient ce matin, que tu parles à chacun de nous d'une manière ou d'une autre, et toi tu sais parler à nos cœurs, alors à toi toute la gloire, car c'est toi seul qui peux utiliser ta parole pour joindre nos cœurs et parfois trancher entre l'âme et l'esprit, les jointures, les moelles, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, afin, Seigneur, que ta parole à double tranchant, l'Ancien et Nouveau Testament, nous perce, nous touche et nous transforme. Et nous t'en bénissons à l'avance. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous t'en donnons toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, durant, si on peut monter un petit peu le, pour moi, je n'ai pas de retour, je ne sais pas trop. Alors, pour cet été, j'ai pensé que nous allons commencer au moins quelques dimanches avec un retour sur l'Épître aux Hébreux. Et je vous invite à tourner avec moi, Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous allons juste regarder la première partie du verset 1 ce matin, mais c'est dans le tableau des trois premiers versets, donc nous allons les lire ensemble. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Dans le texte original aussi, ici, il y est le verbe rejeter est au participe présent. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons, c'est un impératif, ayant les regards sur Jésus, et considérez en effet. Donc, nous allons regarder en fait les quatre verbes clés: rejeter, courir, regarder, considérer. Et ce matin, nous allons mettre l'accent sur le verbe rejeter. Mais le passage commence au verset 1 par nous donc. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. En fait, j'ai toujours tendance à vouloir dire que c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Mais on ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux commence, à partir du chapitre 11, à nous décrire les caractéristiques de la foi. Il n'est pas question ici d'une définition de la foi, mais la nature de la foi. Il est écrit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et il est question donc de la foi d'Abel, d'Enoch, de Noé. C'est par la foi que Abraham, verset 8, c'est par la foi que Isaac, verset 20, c'est par la foi que Jacob, Joseph, verset 22, Moïse, verset 23, Josué, verset 30, Rahab, au verset 31, et puis l'auteur continue avec une liste de personnes, et j'aimerais juste la mentionner, verset 32, que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'accepteront point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les ans de la terre, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis de Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Tout le chapitre 11 est l'éloge quelque part d'hommes et des femmes de Dieu qui ont vécu par la foi, jusqu'à mourir martyrs. Et lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux commence ainsi, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ici, il y a l'idée d'être dans un stade. Et évidemment, l'expression clé du premier verset, c'est « courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ». Et le mot « courir » ici, dans le grec, c'est le verbe « agon » qui a donné le mot français « agonie ». « Agoniser », ce n'est pas un sprint. On peut être bon à un sprint de 100 mètres, plus ou moins bon, disons, d'accord. Même le maître, vous savez, ne courra pas aux Jeux Olympiques parce qu'il est classé le 11e. 11e dans les temps, n'est-ce pas, performant pour le 100 mètres. Et donc, il va courir le 200 mètres. Et courons avec persévérance. Bon, il y a des sprints, mais l'idée ici, c'est que nous sommes engagés dans une course qui est plus qu'un sprint, c'est un marathon. Et l'idée, c'est de courir avec persévérance, c'est-à-dire avec consistance, avec endurance, parce que nous sommes dans une course qui demande un effort particulier et constant. Et parfois, nous nous arrêtons, nous trébuchons, nous tombons, nous cessons de courir. Le plus grand drame qui peut arriver à un athlète qui court, par exemple, c'est de tomber pendant la course. Il a rêvé, il s'est préparé toute l'année, n'est-ce pas, pour arriver à une médaille. Et dans la course, il peut arriver parfois à cause d'une bousculade ou peu importe, de tomber. Tous ses rêves tombent. Et parfois, dans la vie chrétienne, les chrétiens courent et tout d'un coup s'arrêtent. Il y a des raisons pour cela. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut encourager, n'est-ce pas, les croyants que nous sommes dans cette course dans laquelle Dieu nous a placés lui-même. Il veut nous encourager. Et de toute cette liste de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il manque le modèle parfait. Quel est le modèle parfait de celui qui a couru sur la terre, façon de parler, si ce n'est Jésus lui-même. Et donc ici, il veut nous amener à regarder à Jésus. Et on regardera plus tard ce que c'est que de regarder à Jésus et de considérer Jésus lui-même dans sa course, n'est-ce pas, qu'il a vécu sur terre. Et l'auteur nous montre donc, et commence, et je reviens à ce que j'avais mentionné au départ, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Le mot témoin dans le grec, martus, a donné le mot français martyr. Et le chapitre 11 termine avec tous ceux qui sont morts martyrs, qui ont été prêts à donner leur vie pour le Seigneur. Ils ont couru, et tout d'un coup, Dieu a arrêté leur course. Paul était en prison, mais il ne s'est pas arrêté de courir. Il a écrit les épîtres, il a prié, il a gagné les gens au Seigneur qui étaient autour de lui, etc. Peu importe là où nous nous trouvons, Dieu nous appelle à courir. Et nous sommes placés comme dans un stade. Et nous arrivons dans ce stade, et nous sommes en train de courir. Et là, il y a cette nuée de témoins. Ce sont éventuellement des spectateurs dans des gradins qui applaudissent, n'est-ce pas, ceux qui en rentrent après le marathon. Souvent, les gens se lèvent parce qu'on voit la souffrance sur le visage de celui qui finit un marathon, n'est-ce pas. Il court, mais il veut finir la course. Il est en course encore. Et les gens se lèvent pour l'encourager, l'applaudir. Et l'image ici, c'est que nous sommes dans une course et parfois c'est difficile. Mais il y a cette nuée de témoins, de gens qui sont prêts, qui ont été prêts même parfois à mourir martyrs, qui ont vécu par la foi. Depuis le début, n'est-ce pas, d'Abel jusqu'à toute cette liste qui nous est mentionnée à la fin du chapitre 11. Vous pouvez continuer à courir et continuer et ne pas cesser de courir parce qu'il y a des gens qui vous ont précédé, qui ont couru cette course avec la foi et qui ont remporté la victoire. Parce que pour courir, c'est déjà finir la course, c'est déjà bien, et remporter évidemment la course, c'est encore mieux. Et donc, ces gens-là se lèvent dans l'estrade, n'est-ce pas, dans ce stade, et nous applaudissent, nous encouragent. Ils ne sont pas là, évidemment, on ne croit pas à la présence de saints, n'est-ce pas, dans les airs. Mais l'idée, ce sont les témoignages qu'ils ont laissés. Les témoins de l'Ancien Testament, les témoins du Nouveau Testament, les martyrs des premiers siècles de l'Église primitive et le sang des martyrs au travers de toute l'Église de Jésus-Christ, au travers des siècles. La réforme, les héros de la foi au travers de la réforme et la contre-réforme, tous ces héros actuels qui sont prêts à mourir pour le Seigneur, hein, dont on a parfois l'information par portes ouvertes, ces gens qui dans différents pays persécutés continuent à aimer le Seigneur, à être prêts à mourir pour eux, parce qu'ils sont dans une course. Quelqu'un a dit, nous n'avons qu'une seule vie à vivre, pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? Je crois que c'est William Booth, le fondateur de l'armée du salut qui a dit cela. Et dans l'épître aux Hébreux, parfois est mal comprise, mais nous devons comprendre que les lecteurs sont assez variés. Il y a ceux qui sont vraiment des croyants, mais qui sont étonnés par la persécution et qui pourraient se décourager et même penser que la souffrance qu'ils reçoivent est due à un châtiment de Dieu, alors qu'ils veulent suivre le Seigneur. Ça peut arriver, cela. L'incompréhension, n'est-ce pas, des plans de Dieu au sein de la persécution. Puis il y a ceux qui sont hésitants. Il y a ceux qui ont un pied dans le judaïsme, un pied dans le christianisme, entre guillemets, de Christ. Ils sont hésitants, ils sont partagés avec les traditions juives. Et puis, ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon et doit faire un pas aller entièrement vers Christ, ils ont peut-être peur de la persécution eux-mêmes, ils sont hésitants. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux les encourage, les enseigne, les instruit et les avertissent aussi, n'est-ce pas? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous encourager. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'être encouragés dans la course où nous nous trouvons, là où Dieu nous a placés, dans notre travail, dans les études, ou dans l'Église, les ministères? Oui, nous avons besoin d'être encouragés. Vous savez, l'ennemi a l'art de vouloir décourager les enfants de Dieu, de leur faire douter que Dieu les aime, de leur faire douter que oui, ils sont là où Dieu les a placés pour glorifier le Seigneur. Alors, ce n'est pas nouveau que dans le Nouveau Testament, il y a des images de la vie chrétienne. Là, c'est l'image de la course. Paul souvent parle de l'image du combat, appelle le croyant à combattre comme un bon soldat de Jésus-Christ, à revêtir toutes les armes de Dieu, à combattre le bon combat de la foi, comme il dit à Timothée. Même Paul compare la vie chrétienne à la boxe. Je frappe non pas comme battant l'air, etc. La Bible compare aussi le croyant à l'esclave, au serviteur, et aussi le sel de la terre, la lumière du monde, et même Pierre parle de bébé, de pierre vivante, n'est-ce pas, qui bâtissent. Toutes ces métaphores, en quelque sorte, veulent décrire la vie chrétienne, et là, la vie chrétienne est comparée à une course, et Paul dit souvent, n'est-ce pas, que nous sommes dans cette course qui court, vous couriez bien, couru en vain. Et c'est l'image que l'auteur de l'Épître aux Hébreux ici prend, la course du croyant et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. J'ai tellement hâte de regarder déjà le deuxième verbe, n'est-ce pas, courir. Mais pour courir, il faut savoir d'abord rejeter ce qui est inutile. Paul disait, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et la Bible dit ici, rejeter tout fardeau, rejetant, courir, c'est en même temps une action permanente. Il n'y a pas l'idée ici, je rejette, puis je cours. Je suis dans une course, je continue de courir, puis tout en courant, je ne fais que rejeter ce qui est inutile. Parce que parfois, on peut prendre des choses dans nos vies qui prennent du poids inutile. C'est comme le surpoids, n'est-ce pas? Et quand on a un surpoids, on est rapidement disqualifié dans les grandes compétitions. Il y a des athlètes qui doivent maigrir avant de faire telle ou telle compétition parce qu'ils ont quelques surpoids, que ce soit, enfin, peu importe l'exercice, n'est-ce pas, sportif, mais quelques grammes, quelques kilos peuvent disqualifier. Alors le fardeau, c'est cette image, c'est quelque chose qui pèse, qui est inutile, et c'est quelque chose dont on doit s'en débarrasser. Je me souviens, j'ai eu le privilège, entre guillemets, de faire le service militaire. Et j'avais des godillots, vous savez. Et c'est vrai que marcher avec des grosses chaussures, vous avez fait le service militaire, peut-être pas, là. Mais à un moment donné, on en a assez. Quand vous faites 40, 50 kilomètres, n'est-ce pas, dans la journée, qu'il faut marcher avec des chaussures pour lui mettre de la graisse, parce que sinon, vous avez les pieds rapidement qui vous font souffrir. C'est pas si c'est fait pour protéger, mais c'est un peu lourd, n'est-ce pas? préfère être en basket et puis avoir une piste plus légère, avoir une piste et se sentir plus léger. Alors le mot grec ici pour rejeter, c'est l'idée de se débarrasser comme on se débarrasse de vieux habits. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire parfois de faire le ménage dans nos maisons ? À Québec, on disait on va faire le grand ménage. Alors, le grand ménage, c'était le ménage du printemps, le ménage de l'automne. Ici, je ne sais pas trop comment on dit, mais on a besoin de faire du ménage, mais aussi dans nos vies. Parce qu'on peut s'embarrasser de choses inutiles. Et c'est subtil comment la vie peut nous prendre, et peut-être même des fausses priorités, et nous empêcher de courir ou ralentir notre course. Si le diable ne peut pas nous arrêter et nous faire trébucher au point de tomber, ce qu'il va essayer de faire, c'est de nous ralentir. Quelqu'un qui est ralenti n'est pas aussi productif et pour glorifier Dieu dans sa vie, n'est-ce pas ? Alors nous sommes appelés à rejeter tout fardeau, à faire le ménage et nous débarrasser des choses inutiles. McDonald's, dans son commentaire, dit « Un fardeau signifie tout ce qui peut entraver nos progrès spirituels, mais s'il n'est pas mal en soi, des biens matériels, des liens familiaux, l'amour du confort, le manque de disponibilité, ça peut commencer par des petites habitudes qui prennent petit à petit la place du Seigneur. » Je me souviens avoir lu le livre de Jean-Paul Tournier qui parlait du fait, c'est un médecin, qui lisait le journal le matin. Il aimait beaucoup lire se lever, prendre un bon petit déjeuner, lire son journal, et jusqu'à ce qu'il s'est aperçu que les nouvelles prenaient plus de place quelque part dans sa vie que de commencer à lire la Bible. Alors, on n'est pas sous une loi, mais c'est vrai que des fois le matin on met la radio, il y a tellement de choses dont on nous informe qu'on peut oublier que la priorité du matin c'est le Seigneur, hein, Charles Stubb, vous savez, j'aime bien cette... Nous avons tous nos héros de la foi qu'on peut ajouter à la liste du chapitre 11. Il y a des missionnaires, des chrétiens, passés ou même présents, qui sont des modèles pour nous. Et pour moi, Charles Studd, c'est un modèle de la foi. Il disait, je me lève tous les matins à 5 heures et je frappe sur le diable avant qu'il me frappe dessus. C'est une bonne façon de commencer la journée. Vaut mieux commencer la journée avec le Seigneur que terminer en confessant toutes nos erreurs de la journée. Et c'est tellement important de commencer la journée avec le Seigneur. Alors nous avons besoin, pour courir, de nous alléger au maximum. Et c'est vrai que l'athlète est soumis à un régime très draconien, perd du poids, un régime, un entraînement, n'est-ce pas, très discipliné, pour être prêt à exercer à la pointe de la compétition le meilleur résultat. S'il veut gagner la course, il y a des sacrifices quotidiens. Et j'ai marqué ici, courir, c'est d'être l'homme d'une seule chose, d'un seul but, d'une seule ambition. Oswald Smith, dans son livre « La passion des hommes », disait que l'homme, le croyant, devrait être le croyant d'une seule chose. Évidemment, pour lui, dans son livre, c'était décrit « La passion des âmes ». Mais nous nous égarons si facilement, et par notre emploi du temps, et le temps peut-être qu'on ne sait pas gérer convenablement, et qui finalement nous ralentissent dans notre course. Je pense aux coureurs cyclistes. Vous avez certainement regardé le Tour de France, ou un petit peu, vous en avez entendu parler. Vous savez que chaque vélo d'un coureur, ils ont plusieurs vélos, coûte en moyenne 15 000 euros. Parce que ce sont des vélos très sophistiqués, très robustes, en même temps très légers, avec des pièces, n'est-ce pas, un mécanisme à la pointe, n'est-ce pas, à la pointe de la technique. Mais ils s'entraînent. Non seulement ils ont des vélos très légers, très résistants, et si vous avez fait du vélo, enfin il y a peut-être quelques années, nos vélos étaient assez lourds. Maintenant on a des vélos vraiment très bien adaptés, n'est-ce pas, et ces coureurs qui courent, mais c'est pas que les vélos qui sont adaptés, c'est que eux s'exercent pendant des mois, même toute l'année, dans l'espoir déjà de pouvoir être au départ du Tour de France. Déjà d'être au départ du Tour de France, quel n'est-ce pas défi, et de terminer, c'est un autre défi. Moi, je trouve que le dernier Tour de France, il a autant de mérite que le premier. Mais ceci dit, chacun court et s'entraîne pendant des mois, peut-être toute une année. Il y a ceux qui se préparent aujourd'hui pour les Jeux Olympiques de Londres, n'est-ce pas ? Et ils ont été qualifiés dans leur pays, sélectionnés. Mais c'était dû à un entraînement très dur. Ils rêvent d'être déjà sélectionnés et ensuite de courir et peut-être avoir une médaille. Puis là, on donne toutes les statistiques des espoirs, des futures éventuellement médailles. Vous comprenez l'idée en tout cas. Le fardeau dans ma vie, c'est tout ce qui freine ma course, tout ce qui la ralentit et qui peut même l'arrêter. Et il faut dire qu'on a toutes sortes d'obstacles dans nos vies. Vous savez, le diable, c'est pas le sujet de ce matin, mais l'idée qu'il est comme un lion rugissant, et puis il a toutes sortes de ruses, et il met comme, on n'a pas le temps de regarder ça dans l'épître aux Éphésiens, mais il met, l'idée c'est, dans l'image ici des attaques du diable, c'est qu'il met des bâtons dans nos roues. Hein? Il veut nous faire tomber. Et donc, on a des obstacles à éviter. Par exemple, Jésus, en Luc chapitre 9, il parle du danger de l'amour du confort. Des affaires d'abord, le travail d'abord, les liens d'affection familiaux, même s'ils sont importants, d'abord. Et même Jésus a dit, quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père ou sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Il dit, ce qu'il veut dire ici, c'est que l'amour qu'on a envers lui, en comparaison avec l'amour que l'on a avec nos bien-aimés, devrait être dans l'échelle de l'évaluation, n'est-ce pas, la comparaison entre l'amour et la haine. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer ses bien-aimés, bien sûr, vous le savez. Mais l'idée, c'est qu'on doit savoir se consumer pour le Seigneur. Jim Elliot disait, comme témoignage, je n'ai pas ici malheureusement ses phrases, ses mots exacts, mais il disait que la flamme que Jésus lui avait donnée dans le cœur, il devait la laisser s'enflammer entièrement pour que sa vie se consume. Et vous savez qu'il est mort martyr. Jim Elliot, un missionnaire qui est parti en Amérique du Sud pour gagner les Indiens dans un endroit, des coupeurs de tête, et on lui a coupé la tête. Il était prêt à se consumer pour le Seigneur. Il avait tout donné. Et c'est vrai que nous avons peur de tout donner. Il y a une crainte en nous. Nous avons des craintes. Nous avons des inquiétudes. Nous avons peur de nous donner au Seigneur. Nous avons peur du prix à payer et des conséquences, n'est-ce pas, de notre engagement pour le Seigneur. Un autre obstacle, Paul dit que c'est l'amour de l'argent qui est une forme d'idolâtrie et la racine de tous les maux, l'amour des biens matériels. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat, eh bien, il est dans un cas de discipline où il y a une rupture quelque part avec bien des choses parce qu'il est consacré à sa vocation de soldat. Normalement, il part pour combattre. La santé, parfois, nous inquiète. Le travail, les pressions du travail, le travail et les pressions peuvent devenir tellement fortes que finalement, ça nous préoccupe tellement qu'on oublie d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Une mauvaise façon d'aborder la vie chrétienne, j'ai marqué comme le légalisme. Parfois même, on parlera tout à l'heure du péché qui nous enveloppe si facilement, le manque de pardon. Je me souviens, et je me souviendrai toute ma vie, la première personne que j'ai baptisée en tant que pasteur à l'église à Québec, c'était une dame qui s'était mariée avec un monsieur qui ne connaissait pas le Seigneur. Elle avait eu un enfant. Et alors, il y a quelques personnes dans l'église qu'elle fréquentait qui l'avaient vraiment blessée. Bien sûr, elle était tombée, elle avait reconnu ses torts, elle avait eu tort, n'est-ce pas, dans sa vie de faire cela. Mais elle voulait revenir vers le Seigneur. Mais une chose dans sa vie l'a marqué profondément, c'est qu'on lui avait dit des choses qui avaient été dites maladroitement, disons. Ça l'avait blessée. Elle me souvient un jour où elle a décidé de pardonner. Et le jour où cette femme, une quarantaine d'années, infirmière, a décidé de pardonner à ceux qui l'avaient tellement blessée, même si elle avait été fautive, elle l'avait reconnue, sa vie a été complètement transformée. Elle n'était pas baptisée, elle a voulu être baptisée. Son mari a commencé à s'ouvrir, parce que lui aussi avait été blessé par d'autres, malheureusement, puis maintenant il fréquente l'église. Le manque de pardon. Pardonner, c'est pas toujours évident. Le doute, la crainte, j'ai marqué, de l'avenir, l'anxiété, l'inquiétude. Comme a dit quelqu'un, je m'inquiète d'être inquiet. J'ai ajouté, l'orgueil, la paresse, l'incrédulité. D'ailleurs, je pense qu'essentiellement, l'exhortation qu'on doit recevoir ce matin, c'est de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, notamment l'incrédulité, puisque c'est la continuité du chapitre 11 qui est, n'est-ce pas, l'éloge de la foi. Quand nous manquons de foi, quelque part, nous nous affaiblissons. La foi est vraiment le moteur, la profonde motivation, notre relation avec Dieu. Quand notre foi faiblit, notre course ralentit beaucoup. Vous savez, je vais vous lire deux, trois passages sur les inquiétudes. Je pensais vous dire ça ce matin, mais savez-vous qu'il est prouvé que 85% de nos inquiétudes sont des inquiétudes complètement inutiles. Il y a des inquiétudes, oui, dont il faut s'inquiéter, peut-être, prendre soin, des choses réelles, il faut prendre du recul, il faut surtout quand on est croyant, les mettre au pied du Seigneur. Mais bien souvent, nos inquiétudes nous inquiètent pour rien. Nous nous inquiétons bien souvent pour rien. Et vous connaissez certainement le passage en Philippiens. Alors, suivant notre nature, plus ou moins anxieuse, peut-être que nous nous inquiétons plus ou moins facilement les uns les autres. Mais la Bible dit, et Paul est en prison, puis il dit aux Philippiens, « Mais réjouissez-vous !» Il n'est pas en train de se plaindre de sa condition. Il dit, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de... Juste vous inquiétez de quelque chose. Non, non, de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Vous savez, j'ai remarqué que nos inquiétudes disparaissent le moment où on en parle au Seigneur. Le moment où on va vers le Seigneur. Et puis on le loue, le Seigneur, on croit en sa souveraineté sur nos circonstances de vie. Et on commence à le louer, à le prier avec des actions de grâce et l'inquiétude disparaît. Bien sûr qu'on peut parfois, n'est-ce pas, être inquiet. Il y a de quoi être inquiet. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Je puis tout, disait l'apôtre Paul, par celui qui me fortifie. Et le résultat est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous avons lu en famille, et j'ai beaucoup apprécié cela, l'épître de Pierre pendant nos vacances. Et j'ai souligné quelque chose pour ce matin d'ailleurs. Il est écrit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. La clé, c'est toujours l'humilité dans nos vies. Hein. L'humilité, c'est la main ouverte pour recevoir la grâce de Dieu. L'orgueil, c'est quelque part la main fermée qui ne peut rien recevoir. L'humilité, c'est la clé. Et qu'est-ce que dit Pierre ici, l'apôtre Pierre, et déchargez-vous sur lui, Dieu, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Savez-vous que Dieu nous a aimés même avant la fondation du monde? Déjà, il nous a aimés. S'il nous a aimés, il nous a sauvés. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Même avant que nous naissions, Dieu nous aimait et il continue à nous aimer. Et s'il a un père pour nous, ben, il veut prendre soin de nous. Il est en train de prendre soin de nous. Ce n'est pas qu'il va prendre soin de nous. Il est en train de prendre soin de nous. Et puis, un autre passage que j'ai pensé vous souligner ce matin, c'est Matthieu 6. Bien sûr, on connaît ces passages-là. Matthieu chapitre 6, allez rapidement. C'est un rappel, certainement, mais c'est pourquoi je vous dis, verset 25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Le problème, c'est que nous, on ne s'inquiète pas du lendemain, on s'inquiète pour les années à venir. C'est encore plus grave, n'est-ce pas? Il dit, « Car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ne nous inquiétons pour rien, nous portons des fardeaux trop lourds et nous faisons de petites choses des grands obstacles, alors que Dieu veut qu'on les lui abandonne. » Nous, parfois, nous pensons pouvoir courir tout en étant dans le souci, l'inquiétude, mais nous devons apprendre à abandonner cela pour nous reposer sur le Seigneur. Il faut que j'aille plus vite si je veux terminer mon message ce matin. Comment se débarrasser de ces fardeaux? C'est intéressant, ça. Comment se débarrasser de ces fardeaux? Premièrement, c'est pas nouveau, hein, aller vers Jésus. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes... » fatigué et chargé, donnerait du repos. Je crois que Jésus a menti, là. Il n'a pas menti, Jésus. Hein. Il a promis que si on va vers lui, on lui remet nos fardeaux, il les prend. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et homme de cœur, et vous recevrez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je suis sûr que la plupart d'entre nous, peut-être tous, nous avons fait l'expérience un jour d'avoir un fardeau vraiment pesant dans nos vies. Et on est allé à lui, et tout d'un coup, on s'est senti tout léger. Alors, je me souviens, je crois que j'ai déjà donné cette anecdote, excusez-moi, mais je me souviens, un jour, j'étais dans l'ascenseur, j'ai vu une vieille dame porter un sac d'épicerie, une valise, et elle était là, elle avait des difficultés, puis elle me dit, il faudrait que j'aide cette dame. Elle monte dans l'ascenseur, on monte ensemble, et qu'est-ce que je la vois dans l'ascenseur? Porter toujours son truc. Au lieu de le mettre par terre, l'ascenseur l'a porté, non ? Vous pouvez juste mettre sa valise ou son sac, je ne sais plus, par terre. Mais continue à porter comme ça son truc. Je me dis, mais ça, c'est l'illustration du croyant. Il a l'ascenseur qui est le Seigneur, repose-toi un petit peu, abandonne tes fardeaux. Puis on est là, Seigneur, oui, tu vois, j'ai mes fardeaux, on vient au pied de la croix, tu vois, Seigneur, puis on repart avec, exactement comme on est venu. Et on a oublié d'abandonner son fardeau. Le Seigneur veut prendre notre fardeau. C'est facile à dire, c'est vrai. Mais apprenons cet exercice de la foi, à s'abandonner envers le Seigneur. Deuxième façon d'abandonner ses fardeaux, aller vers Jésus, c'est le plus important, aller vers les autres. Quelqu'un a dit 50% de nos problèmes sont résolus ou sont soulagés dans la mesure où on les partage aux autres. Il y a des fardeaux parfois qui sont un peu délicats à partager. Mais vous savez, dans le Nouveau Testament, et je le souligne ce matin, bien des fois, il est souligné une expression grecque au singulier, au pluriel, l'un l'autre, les uns les autres. C'est dans la mesure où on pratique cette charité spirituelle de porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, qui est la loi de l'amour. Il y a beaucoup de soulagement dans l'Église. Nous devons apprendre à partager nos difficultés. Et c'est merveilleux parce que je crois que quand on souffre, les autres souffrent. Quand quelqu'un est dans la joie, les autres sont dans la joie. Je crois que notre Église expérimente cela. Puis j'ai marqué aussi le fardeau du surpoids que nous portons et tout simplement parfois une vie mal réglée. Ce n'est peut-être pas des choses énormes dans notre vie, une vie mal réglée, perte de temps, un manque de temps passé dans la prière ou dans la lecture de la Bible, une vie où tout devient lourd et pesant parce qu'il y a un manque de foi, un manque de consécration, de fausses priorités. Parfois nous nous laissons gagner par des petites choses qui deviennent des grandes choses parce qu'elles prennent trop de place dans nos vies et on s'inquiète. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. » Il n'y a pas de disciple sans discipline, on dit, c'est vrai. Et parfois, notre vie est mal réglée. Et nous perdons du temps ou nous n'avons pas notre concentration au bon moment, au bon endroit. La question que le Seigneur nous pose ce matin est simple. Quel est mon fardeau ? Quel est votre fardeau ? Vaut mieux se débarrasser, j'ai noté, des fardeaux de ce monde. Les fardeaux de nos propres cœurs, notre propre chair, l'orgueil, l'égoïsme, les passions, et revêtir les fardeaux de Jésus qui est la passion du salut des âmes, son Église, et prendre le temps de bâtir son Église. On ne se trompe jamais lorsqu'on travaille à l'établissement, l'édification du corps de Christ. Porter les fardeaux. Et si vous me permettez, j'ai quelques minutes pour terminer, on va parler de rejeter, donc tout fardeau, et maintenant le péché qui nous enveloppe si facilement. Paul disait ceci aux Galates, « Vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Le mensonge que le diable utilise est là pour nous arrêter. La vérité nous a franchis du mensonge. Et tout d'un coup, l'Église aux Galates, n'est-ce pas, était en danger parce qu'il y avait des faux docteurs. Les gens voulaient ramener l'Église vers le judaïsme, le danger du légalisme. Toute expression de foi, vie chrétienne ou aspect de la vie chrétienne qui n'est pas centré sur Jésus-Christ peut devenir un extrême. Mysticisme, légalisme, etc. qui sont finalement des choses qui peuvent nous envelopper très subtilement. MacDonald disait dans son commentaire, il peut s'agir ici du péché sous toutes ses formes, mais probablement surtout le manque de foi. Nous devons avoir une pleine confiance dans les promesses de Dieu comme dans la victoire promise à la vie de la foi. Le mot grec ici, envelopper, signifie tendre des embûches, encercler. J'ai marqué ici dans mes notes, le péché endort, hypnotise, anesthésie, handicape le croyant. Le péché peut nous encercler, nous lier, nous arrêter et courir. Comme a dit quelqu'un, on peut mettre un fil autour de ses poignets, un fil de couture, et forcer et déchirer le fil, être libéré. On met un deuxième tour de fil, c'est relativement facile à s'en libérer. Mais il y a un certain moment, juste un fil de plus, un tour de plus autour des poignets, et on est prisonnier. Quelqu'un a dit ceci, semer une pensée, récolter un acte, semer un acte, récolter une habitude, semer une habitude, récolter un esclavage. Un chrétien enveloppé de péché est tellement préoccupé de son péché qui ne peut être utile et utilisé par Dieu. Alors comment rejeter le péché dans nos vies? Je termine avec cela. Premièrement, le confesser et l'abandonner. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout péché. Moi, j'ai toujours été encouragé par le tout. Tout péché. Tout ce qu'on a pu faire, dire et penser qui n'est pas de Dieu. Et chaque sorte de péché. Il n'y a pas un seul péché. Non seulement Dieu veut nous pardonner tous les péchés, mais il n'y a pas un seul péché qu'il ne puisse pardonner. C'est merveilleux cela, non? Deuxièmement, ne pas le laisser dominer sur nous. Romains 6, verset 11 à 12, je vous le lis. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Un troisième aspect, c'est de résister à la tentation. Aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue, qu'il était humain, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve et la tentation, il préparera le moyen d'en sortir. Jacques nous exhorte dans son épître, « C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous qui peut sauver vos âmes. » Pierre nous dit, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Revêtir, bon, c'est pas le thème là, mais se rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est se débarrasser de notre vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. C'est ce que dit par exemple Paul dans l'épître aux Éphésiens. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu, disait l'apôtre Paul. Et pour terminer, non seulement je dois confesser, abandonner, ne pas laisser le péché me dominer, résister à la tentation, accepter finalement l'enseignement de la parole et serrer la parole sur notre cœur. Comme dit le psalmiste, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La puissance de la parole. Quelqu'un a dit, « Où ce livre vous éloignera du péché, ou le péché vous éloignera de ce livre. » Et je termine avec une anecdote. Il y avait un frère nouvellement converti qui, à Québec, avait l'habitude de boire de la bière. Parce qu'à Québec, beaucoup de gens, à une certaine époque, buvaient surtout de la bière pour se saouler. Et il allait chez ce qu'on appelait le dépanneur, qui est l'épicerie ouverte 24 heures sur 24, et demandait, comme ça, arrivé au comptoir, c'était la façon de faire au Québec, « Je voudrais une 24. » Qu'est-ce que ça veut dire une 24? Une 12, une 24. Les 6, ça n'existe pas. Pratiquement, c'est 12 ou 24. Ça veut dire quoi? Un paquet de 12 bières ou de 24 bières. Et chaque jour, il allait chercher son paquet de 24 bières et il buvait 24 bières par jour. Ça commence à être grave, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? D'ailleurs, son ventre manifestait, n'est-ce pas, un gonflement dû à la bière certain. Et cet homme-là s'est converti. Et il m'a témoigné un jour quelque chose d'extraordinaire. On est allé chez lui. Il lisait, alors c'était un homme qui lisait, tout d'un coup il s'est mis, il était passionné de la Bible. Et il s'est mis à lire la Bible, il a lu l'Ancien Testament, puis il a lu comment Dieu a délivré Israël de l'Égypte, comment ils ont traversé la mer, comment Pharaon a été vaincu. Puis il a lu dans l'Ancien Testament les miracles de Dieu, la puissance de Dieu. Tout d'un coup, il a regardé ça, il a dit, « j'ai un problème dans ma vie, je suis un alcoolique. » Il s'est tourné vers Dieu dans son lit, il lisait allongé. Il s'est tourné vers Dieu et a dit, « Seigneur, tu es tout puissant. Par la foi, je crois que je suis délivré de la bière. » Et du jour au lendemain, il a arrêté de boire la bière. Ce qui est extraordinaire, c'est que suite à cette consécration, enfin, c'est Dieu qui est souverain, n'est-ce pas, ça a eu des ans. Son épouse s'est convertie, sa fille s'est convertie, et le fiancé de sa fille s'est converti. Ça vaut la peine de croire que Dieu est tout puissant. Nous avons un fardeau. Vous avez un fardeau. Moi, ça m'arrive d'avoir des fardeaux. Ça vous arrive aussi? Peut-être ce matin, vous avez un fardeau. Allons, soyez honnêtes devant Dieu. Il y a un fardeau. Il y a peut-être une tentation, un péché qui vous enveloppe si facilement, qui vous bloque. Allons au pied du Seigneur ensemble. Ne terminons pas comme cela, si vous voulez. J'allais dire en queue de poisson. en quelque sorte. Terminons sérieusement devant le Seigneur. Examinons nous-mêmes devant Dieu. Reconnaissons que peut-être nous avons un fardeau ce matin, quelque chose de particulier. Et je vous invite, par un moment de recueillement sincère devant Dieu, à le déposer maintenant au pied du Seigneur. C'est entre vous et le Seigneur. Vous n'êtes pas obligé de faire cela maintenant. Vous pouvez le faire chez vous. Vous le ferez peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais si vous deviez avoir un fardeau ou quelque chose qui vous pèse d'une manière ou d'une autre, je vous invite, bien-aimés, ensemble, prions le Seigneur et exposons-lui cela. Juste quelques secondes maintenant. Et peut-être c'est un exercice qui doit prendre plus de temps. Alors faites-le à la maison. Mais ne gardez pas ce fardeau. Vous avez ce privilège d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques spirituels du Seigneur. Vous courez garder les yeux fixés sur le Seigneur. Et débarrassez-vous de tout ce qui vous contraint, ralentit, fait obstacle à votre course. Car Dieu en sera glorifié. Et votre gloire est à venir, nous dit l'Épître aux Hébreux. Pour l'instant, nous sommes dans la course, l'agonie, mais bientôt nous serons dans la gloire et nous louerons le Seigneur. Soyons prêts à souffrir pour le Seigneur et à abandonner tout fardeau. Faites-le maintenant. Faisons-le ensemble. Nous donc, ils sont environnés d'une si grande nuée. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen.